Vous écoutez RTL.
Merci beaucoup et nous retrouvons tout de suite les invités de la bonne heure, Olivier Marchal et Elsa Lunghini. Merci. Bonjour, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je veux d'abord, avant d'opérer, j'aime bien présenter l'équipe qui va procéder à la dissection, à vous mettre sur le grill. Alors, on peut craindre le pire. Le représentant des relations avec les auditeurs est parmi nous, comme tous les mardis. Comme on dit dans l'armée, ça risque de chauffer pour notre matricule avec Stéphane Rose. Bonjour.
Bonjour à tous.
C'est vrai
Ouais. Beaucoup de réactions d'auditeurs encore cette semaine, ouais, auxquelles je répondrai avec impartialité.
Eh bien, la colère ne mène pas forcément au meurtre. Elle peut aussi amener dans un studio de radio, c'est le cas de Joël Goron.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Joël. Vous êtes énervé aujourd'hui, non?
Oh, un petit peu quand même.
Un peu, bien sûr.
C'est ce qu'il faut.
C'est ce qui vous a permis de vous lever ce matin.
Oui.
C'est un peu le petit frère pour qui on prend tous les risques, même s'il faut aller pour cela jusqu'à Clermont-Ferrand. Régis Maillot.
Bravo.
Voilà.
Merci.
Vous m'attaquez beaucoup et pourtant je vous aime bien. Oui.
C'est vrai. Vous me suivrez jusqu'à Clermont-Ferrand.
Oui, bah pas au-delà. Hein, faut pas exagérer non plus.
C'est beau ça. Hein,
c'est beau. Hein. Le retour d'un de nos programmes préférés à la télé, c'est ce que nous promet
surtout
Eric Dussard pour son Zapping Télé.
Bonjour, bonjour à tous. Bah oui, depuis hier soir sur W9. Nouvelle saison de cette très belle émission que l'on appelle les Marseillais. Alors ils continuent leur tour du monde, hein. Ils avaient fait à peu près toutes les destinations. Ils sont toujours pas allés à l'école, hein. En revanche, ça c'est ce qu'on verra tout à l'heure. On apprendra notamment, rappel historique, que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1945, évidemment. Il a pris un peu de temps. Moi, hein. C'était long. Les bateaux n'allaient pas aussi vite que maintenant.
On continuera l'enquête avec le test musical de Patrice Carmouze, consacré aux chansons qui ont pour thème la police. Eh oui. Et toute cette semaine, magnifique cadeau à la clé. Oui. Un séjour dans un relais château, le château de la Traîne. La tour surplombe de si près la rivière qu'il semble que le château flotte sur ses eaux. Situé entre le Lot, surnommé Terre des Merveilles, et la Dordogne, qui abrite plus de 1000 châteaux, le relais château de la Traîne est un lieu de séjour idéal pour partir à la découverte d'une région exceptionnelle.
Vous faites audio guide également dans les musées? Comment ça se passe?
Écoutez, moi, je fais de la pub, alors je change de ton et je change de voix.
Ah,
quand je fais de la pub.
C'est la voix de la Dordogne, laissez-moi parler.
Non, c'est la voix de la pub.
Écoutez, si vous voulez...
T'es comédien, en fait.
Oui, en fait, je suis comédien. Voilà. Bon, on s'en fiche. En tout cas, c'est un beau cadeau. Merci, RTL. À 11h40, on fêtera un anniversaire, le 60e anniversaire du premier héros écolo, Gaston Lagaffe.
Ah oui.
Mais je vous présente d'abord nos invités. L'écrivain Martin Monestier a eu un jour une idée surprenante, qu'il avait enregistrée d'ailleurs pour la radio. Il appelait tous ses amis au téléphone pour leur dire qu'il avait commis un crime et il leur demandait s'ils acceptaient de l'aider à cacher le corps. Selon la réponse de ses amis, il rayait rageusement de son carnet tous ceux qui, d'emblée, refusaient de l'aider. Au fond, c'est l'éternelle question. Que sommes-nous prêts à faire par amour, par amitié ou par esprit fraternel? Autrefois, nous étions prêts à nous sacrifier pour la patrie. Mais selon Luc Ferry, qui n'est pas la moitié d'un imbécile, eh bien, il n'y a plus que par amour filial que nous serions prêts à aller au bout du monde, à montrer les griffes, voire à faire un faux témoignage. Regardez dans l'actualité les efforts louables d'Alexandre Balkany pour voler au secours de son père, quitte à aller lui-même dormir en prison.
Ah oui.
La solidarité fraternelle est au cœur de l'excellent téléfilm de Denis Malval, diffusé demain soir, mercredi 1er mars sur France 2, et qui a réuni un casting époustouflant avec notamment cet acteur et réalisateur qui n'aime rien tant qu'explorer les facettes sombres de l'âme humaine ou l'engrenage qui se referme sur les victimes d'erreurs judiciaires, et celle qu'on a plaisir à retrouver comme actrice, c'est sa première vocation après l'avoir connue un temps comme chanteuse. Avec nous ce matin, je vous demande d'accueillir Olivier Marchal et Elsa Lunghini.
Bravo.
Bonjour, merci vraiment à tous les deux. C'est vrai, on va parler de ce que vous seriez prêt à faire par esprit fraternel. Évidemment, c'est le thème de ce téléfilm. Eh bien, jusqu'où iriez-vous par amitié? C'est le thème de mon interview.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Nous sommes avec Elsa Lunghini et Olivier Marchal. Jusqu'où iriez-vous par amitié? C'est une question qu'on se pose tous et je vais vous la poser dans tous les cas de figure. Est-ce qu'un ami peut vous appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit?
Oui.
Alors, le problème, c'est que maintenant...
Olivier, rien
Olivier
dit.
Olivier, rien dit.
Il coupe son téléphone.
Et des fois, il va se câbler, même.
Je suis sur vibreur, moi. Donc, voilà. Je n'entends pas vibreur.
Moi, non. Alors, c'est la question, quand on pose cette question maintenant, au fond, On n'a plus de téléphone fixe où personne n'a le numéro de votre... Ils ont que votre portable, sauf si vous dormez dans une chambre loin de votre téléphone portable, on peut vous appeler toute la nuit.
Il faut le couper la nuit, en plus, c'est mauvais à cause des ondes.
Donc en fait, on ne sait plus quand il y a une urgence.
Les mauvaises nouvelles peuvent attendre le matin.
Donc les amis ne peuvent plus nous appeler. Alors Joël, ça vous inquiète, ça? Je vous sens inquiète.
Pas du tout.
Vous avez encore un téléphone fixe.
Oui, mais je ne sais jamais où il est. Ah, le fixe, oui, j'ai encore un téléphone fixe. Pourquoi je ne devrais pas?
C'est elle.
Ça ne se fait plus?
Ça se fait moins.
Ça se fait moins. Mais c'est pour les radins. Moi, j'ai deux lignes et puis voilà.
Oh. Ah, vous avez deux lignes, mon Dieu.
Joël, c'est urgent, on peut lui envoyer un fax.
Est-ce que vous pouvez mentir à un ami?
Non, franchement, si je vois peut-être sa femme avec un... En tout cas, ça serait le mensonge par omission.
Oui.
Mais je pense que je le préviendrai quand même.
Oui. Ah oui, vous préviendrez.
Oui.
Tiens, j'ai vu ta femme avec un autre.
Oui, vraiment.
Ah oui.
Et cet autre, c'était moi.
Oui. Je te dis deux choses.
Je me suis ta femme avec un pote à toi, et le pote, c'est moi.
La troisième,
une mauvaise nouvelle et une bonne.
La troisième change, c'est pas terrible.
Est-ce que vous gardez un secret quand un ami vous confie un secret?
Ah oui, je tombe, moi.
Oui.
Je dis rien.
Est-ce que vous gardez un secret devant un ami? C'est-à-dire, si quelqu'un d'autre vous confie un secret, vous le dites pas à votre meilleur ami?
Oui.
Oui, vous le gardez.
Vous le gardez, c'est bien.
Oui. Est-ce que vous prêtez de l'argent à un ami?
Ah oui, je l'ai fait plein de fois.
Ah oui, mais vous savez qu'il ne va pas vous le rendre.
Tous ne m'ont pas rendu, donc ce ne sont plus mes amis.
Vous avez perdu des amis.
Non, j'en ai perdu deux, mais il y en a trois que j'ai gardés, qui me l'ont rendu.
Vous pourriez renoncer à un homme, pour vous, Elsa, ou une femme, vous, Olivier, parce qu'un ami vous le demande?
Non.
Non, ça non. Ah oui. Donc l'amour est plus fort.
C'est sûr.
C'est son épouse.
Non, mais souvent. Je suis sûr que ça vous arrive. Vous avez un très bon ami, votre meilleur ami, qui est avec une femme qui lui va pas du tout.
Ouais.
Est-ce que vous lui dites, écoute, il faut vraiment que tu la largues?
Non, ça je le ferai pas. J'attends que ça se fasse parce que
doucement.
Je sais attendre. Ça m'est déjà arrivé.
Ah oui. Non, mais ça arrive. Vous êtes d'accord, Elsa?
Oui, je le ferai pas non plus.
Non. Ah, vous êtes bien. Est-ce que vous l'aideriez à cacher un cadavre?
Ah oui.
Oui, ça oui.
Non, moi j'ai peur. Non, à cacher, je sais pas. À essayer de trouver une solution, c'est-à-dire je l'amènerai au flic. Je dirais, je serai avec toi jusqu'au bout.
Oui.
Voilà.
Ah oui. Oui, mais vous risquez d'être accusé là.
J'essaierai de le raisonner quoi quand même.
Oui.
Non. Elsa a répondu bien vite, comme si elle l'avait déjà fait.
Non, je plaisante. Un ami peut-être pas, mon fils oui.
Ah oui, voilà, d'accord.
Voilà. C'est ce qu'on disait. La famille, c'est sacré. Mais est-ce que vous pourriez faire quelque chose d'illégal par esprit fraternel ou par amitié?
Oui, braquer une banque.
Non.
Bah, si vous demandez.
C'est Madalton qui le dit. Hein.
Ça dépend quoi.
Ça dépend quoi, oui. Oui. Mais et, par exemple, est-ce qu'un ami vous demande de le tuer?
Hein?
S'il est très malade, on en a
malade,
déjà parlé avec.
Oui, je
peux l'aider à aller un tube de Lexomil.
Et ben voilà, non mais c'est vrai. Eh bien, on va parler de ce téléfilm excellent de Denis Malval, comme tout ce que fait Denis Malval, c'est toujours formidablement réussi. C'est sur France 2 demain soir. Mon frère bien aimé.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
On va retrouver tout de suite Olivier Marchal, Elsa Linguini. Et tous les deux, eh bien, sur demain soir, sur France 2, 20h55, Mon frère bien-aimé, avec Michael Youn, Natacha Lindinger, Geoffroy Thiébaut, Philippe Naon, Morgane Maisonneuve, Sébastien Lasnec, Lilou Léger, Alice May. C'est l'histoire de deux frères. Alors, il y en a un qui a très bien réussi socialement. Hein, c'est pas vous, pardon. Hein. C'est Michael Youn. Il a repris la société de construction navale de son beau-père. Il est marié, il a des enfants. Tout va bien pour lui. Bon, il a quelques avant. Il est connu dans sa ville. Hein, il est installé. Et
c'est
puis,
un notable,
c'est un notable. Voilà. Et il a des petites histoires. Et il vous demande souvent la clé de votre maison. Parce que le frère, c'est vous, et pour aller tirer son coup, comme on dit.
La bagatelle.
La bagatelle. C'est vrai, vous pouvez choisir tout sauf tirer son coup, en fait.
La dame, elle se relève pas, on peut le dire.
Voilà.
Alors vous êtes célibataire, vous savez que vous avez quand même une liaison avec la femme du maire, qui est juge, c'est vous, Elsa.
Oui.
Et puis un jour, donc, je vous dis, ça se passe mal, et vous allez couvrir votre frère. vous allez vous débarrasser du corps. On se dit, ben voilà, la solidarité fraternelle, ça veut dire quelque chose pour vous.
Oui, mais c'est surtout qu'il a fait un serment à sa maman. Avant qu'elle meure, elle lui a fait promettre de s'occuper du petit qui était un peu turbulent. Donc c'est plutôt une parole donnée à la maman, c'est sur la culpabilité aussi.
En fait, on traîne toujours son passé.
Oui, on traîne toujours un petit peu l'héritage.
Alors on va pas raconter toute l'intrigue qui est formidablement bien menée, mais c'est vrai qu'il y a plein d'indices qui vont vous faire accuser à la place de votre frère. C'est-à-dire qu'au fond, celui qui va aider, il va finir par devenir le principal suspect. Et puis alors, votre liaison à tous les deux, parce que le juge avec...
Juste instruit, c'est votre maîtresse.
Elle ne pouvait pas le savoir à l'avance.
Non, bien sûr. Oui, mais elle sait qu'il est innocent.
Elle ne sait pas, elle se doute, elle a des doutes.
Elle a envie de croire qu'il est innocent.
C'est que ça rejaillit sur leur vie personnelle.
C'est une femme amoureuse.
Et alors, il y a une chose qui est très bien menée, c'est qu'on se rend compte que dans une petite ville, les histoires de fesses des notables, bon, c'est un peu l'endogamie, ça tourne un peu en rond, quoi. Tout le monde a un peu... vous voyez ce que je veux dire?
Tirer son coup.
Il y a des histoires, ça vous brûle la langue, si je veux dire.
C'est la langue.
Quand ça se passe mal, ouais, après les MST, ça vous
brûle la langue. Mais ça va être interdit cette émission.
Non, il y a du non-dit.
Il y a du non-dit.
Il y a un côté Chabrol dans le film.
Oui, bien sûr. Oui, mais ça, c'est les films de Denis. C'est vrai, Denis, il a adapté beaucoup de Simenon sur France 2. Moi, j'en ai fait un qui était déjà produit par Jean-Baptiste Nérac, aussi le même producteur. Et c'est vrai qu'il aime bien ces ambiances chabroliennes.
Oui.
C'est vrai qu'on est là-dedans. Oui.
Et puis, il y a une chose qui doit vous plaire, c'est aussi le côté victime qui est d'une injustice, qui peut être broyée par une sorte de machine. Et on voit, on est pris dans une espèce de broyeuse, comme ça.
Le seul mec intègre, c'est mon personnage. Oui. En fait. J'en parle pas parce que c'est moi, mais parce qu'il est une histoire d'amour. Il est follement amoureux d'Elsa, mais qui va pas croire en ça, en son innocence, donc ça va. Son frère le trahit, il va aller jusqu'au bout de la trahison, et il va se retrouver en prison. Et puis même son père, dont il s'occupe, va sourire à son frère et pas à lui.
Oui, alors qu'il est le seul à s'occuper du père. Hein.
Alors que c'est lui qui s'en occupe. Ouais. Et donc il se dit après tout, pourquoi pas rester en prison, parce que c'est un mec brisé, quoi. Donc il se dit après tout, je suis aussi bien derrière les barreaux que après on verra s'il en sort ou pas. Oui. Mais il faut regarder jusqu'au bout.
Oui.
Mais voilà, il accepte son sort en fait.
Ouais. Mais alors, vous avez réuni quand même aussi des gens incroyables. Benoît Magimel, Depardieu, Michael Youn encore.
Oui, il y a Grange, le rappeur.
Ouais. Alors, vous ne quittez plus Michael Youn.
Oui. Non, mais on est devenus très copains sur le tournage.
Ouais.
J'ai eu une très belle histoire d'amour avec Elsa et une amitié qui est restée avec
Michael. On avait dit qu'on n'en parlait pas,
mais enfin... Autant le dire, ça fait un peu le buzz, quoi. Voilà, c'est autant le dire. Ton mari le sache, là, voilà. Je le dis là.
Regarde, elle était de Stéphane.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
On sait bien, non, pas du tout, pas du tout. Je le dirai.
Si. Non, je vois tout, bien que non, vous le balancez comme ça.
On l'a déjà tweeté, de toute façon. C'est bon.
Vous faites ce que vous voulez.
Non, pas du tout.
C'était
de l'humour de bas étage. Non. Mais c'est vraiment... On s'est bien trouvé. Parce que c'est une fille... D'abord, c'est une super comédienne.
C'est pas comédienne.
Elle est vachement bien dans le film. Et puis, c'est une compagnon de travail adorable qui se marre tout le temps, qui n'a pas la grosse tête. Et c'est quand même très agréable. On est devenus très copains aussi.
Qu'elle vous regarde.
Non, mais je l'aime.
Voilà, c'est agréable quand on parle, qu'on est regardé comme ça.
C'est vrai.
On regarde comme dans le film.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Elsa Lungini et Olivier Marchal et nous retrouvons Mad Alton. C'est les humeurs de Joël Goron.
À la lune, les humeurs de Joël Goron.
Bon, alors.
Et ben aujourd'hui, c'est un spécial senior. Vous en doutez pourquoi, n'est-ce pas? Vu mon grand âge, je peux me permettre de parler du sujet. On est en pleine période scolaire. On a l'impression d'ailleurs que les vacances scolaires, il y en a sans arrêt. C'est une éternité, ça reprend toujours. Et d'après ce qu'on me raconte autour de moi, certains grands-parents se font tirer l'oreille pour s'occuper à plein temps de leurs petits-enfants. Surtout les mamies qui disent qu'elles ont travaillé toute leur vie. C'est vrai que c'est la première génération de grand-mères où il y a eu un pourcentage énorme de femmes qui ont travaillé. Et elles disent que 2 jours, ça va pour garder les enfants. 2 semaines, c'est beaucoup. Pourtant, des chercheurs australiens ont étudié des hommes et des femmes de 70 à 100 ans. Et pendant une vingtaine d'années, conclusion, 50% des grands-parents qui s'occupaient régulièrement de leurs petits-enfants étaient encore en vie 10 ans après l'expérience. Alors que les autres, les vilains égoïstes qui préféraient profiter de leur retraite à plein temps en voyageant ou en faisant les petits fous avec leurs vieilles copines ou leurs vieux potes, étaient décédés 5 ans après. Conclusion que je vous livre, s'occuper de ses petits-enfants n'est pas une purge, comme on pourrait le croire pendant les périodes redoutées de vacances, mais une garantie de santé.
Voilà, ça maintient jeune, en fait, d'abord, parce qu'il vous stimule intellectuellement.
Ah oui, ça fait du bien.
Oui.
Enfin, ça dépend.
Intellectuellement, vous voulez.
Ça fait du bien les premières heures.
Pardon, je ne voulais pas parler de votre cas précis. Il vous stimule, vos enfants. Voilà.
Absolument.
Pas forcément intellectuellement,
mais il vous
stimule. Alors, autre
chose spéciale senior, au Japon, 17 millions de conducteurs ont plus de 65 ans, dont près de 5 millions plus de 75 ans. Non. Résultat, une hausse, paraît-il, inquiétante d'accidents mortels. Oui. Alors, pour réduire les accidents de la route imputables à tous ces vieillards, les Japonais ont trouvé un truc radical. Vous donnez définitivement votre permis de conduire et en échange, on vous propose des réductions sur les repas, les restaurants, des réductions dans les taxis, les pharmacies. Je ne sais pas s'il y a une réduction pour aller au cimetière.
Vous le rendez.
Voilà, c'est ça, d'accord. Définitif, vous n'avez plus le droit de conduire et vous avez des petites réductions.
Des avantages en contrepartie.
Je ne sais pas si... je réfléchissais, moi je me disais quelle réduction j'aurais envie d'avoir, en fait je ne sais pas.
Non mais c'est vrai qu'on fait par exemple la révision du véhicule.
Oui,
mais on ne fait pas la révision
des cerveaux. Mais vous savez que c'est à tout âge les révisions de cerveau, on n'en fait pas beaucoup.
Est-ce qu'on peut avoir une réduction sur la voiture autonome?
Oui, alors ça, c'est.
On en est où en France? Il y a une visite médicale obligatoire tous les combien de temps?
À partir de quel âge il y a une visite médicale?
Non, c'est pas obligatoire.
Oh, non, c'est pas obligatoire, je crois.
En Suisse, c'est obligatoire tous les 3 ans.
Vous avez raison, Stéphane, on devrait faire un contrôle technique pour les personnes âgées.
Oui.
Comme pour les voitures, oui.
Et pour les jeunes aussi.
Ben, je vous remercie.
Passez une bonne journée, Joël.
Non, alors j'ai encore autre chose à vous dire. Beaucoup de parents passent leur temps à tenter de dissuader leur progéniture de poster n'importe quelle photo sur le net et 14% d'entre eux sont vraiment gênés par le comportement de leurs enfants. Quand ils vont sur Facebook, par exemple, les parents, ils disent « Mais en fait, t'aurais jamais dû poster une photo pareille. » Eh bien, je vais vous dire, 21% des jeunes, c'est-à-dire pratiquement le double des vieux, se plaignent des comportements de leurs parents qui postent des photos d'eux sous l'influence de l'alcool ou dans des postures ridicules, voire tout nus. Vous vous rendez compte un peu? On ne retient plus les vieux.
C'est l'histoire, tu sais. Mais c'est quoi ces familles où on se met tout nus, adultes? C'est des photos d'enfants.
Ça existe.
Oui, mais les enfants ont souvent honte de leurs parents.
Quoi. Oui, mais il y a de quoi, parfois.
Ils sont plus pudiques, souvent. Merci beaucoup, Joël. Et arrêtez de nous envoyer vos photos.
Ça met tout le monde mal à l'aise.
Bah, arrêtez de boire, c'est sûr.
Encore, j'ai choisi les plus belles.
Oui, on va retrouver Elsa Lungmini dans un instant et Olivier Marchal pour Mon frère bien-aimé, le téléfilm de Denis Malval que vous verrez demain soir sur France 2 à 20h55. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
L'interview, c'est vrai que...
Alors, on a plein de questions à vous poser. Elsa, je commence par vous. En fait, vous êtes tombée dans la marmite toute petite. Hein, d'abord parce que vous êtes la nièce de Marlène Jobert. Et vous, enfant, vous avez côtoyé tellement de stars. Il paraît qu'un soir même, Serge Gainsbourg a disparu d'un dîner.
D'un déjeuner, à Cannes.
Oui. À cause de vous
Mais c'était quand il était Gainsbourg.
Oui.
Il est parti de table, on ne savait pas du tout où il était. Il est revenu 2 heures après. Parce que c'est à Cannes, pendant l'heure du déjeuner, il y a beaucoup de trucs qui ferment quand même.
Oui.
Et il est revenu avec une petite poupée, avec des Anglaises, qui me ressemblaient un peu. J'avais des taches de rousseur. Et il avait fait tout Cannes pour essayer de trouver une petite poupée. Il me l'a ramenée à table.
Oui,
il avait volé dans quelle chambre?
Non, mais c'était ça aussi. Voilà. Il était ça aussi.
Non. Alors, Olivier, vous travaillez beaucoup, d'abord parce que vous avez beaucoup de projets, mais aussi parce que c'est vrai que vous aimez avoir toujours l'esprit occupé et vous n'aimez pas trop vous poser des questions. Donc, en fait, c'est aussi une réponse à vos interrogations existentielles. C'est vrai?
Oui. Oui, Stéphane, la question est trop intelligente.
Non, c'est pas une question.
Non, je fuis dans le travail, ouais, c'est vrai. Parce que ça m'évite de. Quand je commence à penser à moi, je suis pas bien. Comme je suis insomniaque, par exemple, c'est vrai que la nuit, j'ai bouffé l'angoisse et donc je suis obligé de me lever pour travailler.
Oui, mais vous êtes sur vibreur.
Non, mais c'est vrai que je suis pas bien avec moi-même, quoi, tout seul avec moi-même.
C'est pour ça vous arrivez
d'où l'excès d'alcool parfois. Et mais là, je suis en cure, je suis en régime.
Ah, vous êtes en forme.
Oui, non, c'est vrai. Ouais, ça fait 3 jours. Oui, c'est pas beaucoup.
Non, mais déjà
3 jours, c'est la première fois que ça m'arrive.
C'est un bon début.
Donc et puis tout,
c'est un peu bête juste avant le carnaval.
Non, je fais quand j'ai décidé là, il fallait. Ouais. Non, c'est vrai, il faut faire attention.
Alors là, vous n'allez pas vous plaindre que la question soit trop intelligente. C'est vrai que vous avez beaucoup de tics, comme vous grattez la barbe.
Oui, et pas que la barbe d'ailleurs. Ouais.
C'est, comme le reste, on en a une, hein, c'est pour ça. Mais il y a plein de petits tics nerveux comme ça.
Non,
c'est
j'ai
ça
des tics et des tocs. Choses, ouais. J'ai des tics et des tocs. Ouais, vraiment, ça remonte à l'adolescence. Tout ça. Non, c'est.
D'autres questions. Elsa, vous avez connu, vous l'avez dit tout à l'heure, le succès très très jeune. Alors on se dit c'est formidable. En fait, ça n'a pas été forcément très facile à vivre, notamment au collège ou au lycée. Il y avait des profs qui vous faisaient un peu payer ça, non?
Ah oui, j'en ai souffert. Oui. Ouais. Ouais. En plus, j'étais très timide, très introvertie, et j'avais du mal à supporter d'abord le regard des jeunes sur moi.
Ah, parce que vous avez poursuivi votre scolarité normalement.
Oui, c'est ça. Jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où c'était plus possible, parce que je m'absentais de plus en plus. Bien sûr. Me faisais humilié par des professeurs, profs, devant tout le monde et tout ça, donc c'était très compliqué. Puis j'allais me planquer, en fait, j'attendais la récréation, j'allais me planquer pour qu'on me retrouve pas, parce que c'est vrai qu'on me demandait des autographes dans la cour de récréation, et c'est vrai quand on est gamine, c'est un peu...
C'est compliqué, oui, à vivre.
Ouais, c'était un peu particulier. Et donc après, j'ai arrêté, parce que j'étais sans arrêt sur les routes, ou dans les avions, les trains, j'allais faire de la promo un peu partout, et c'était plus possible. Mais j'ai pas aimé l'école du tout.
Elle vous a pas aimé non plus,
non. Visiblement. Non. C'est ça.
Joël, Elsa, c'est vrai que vous avez longtemps dessiné sur les murs de votre chambre et que votre maman, elle vous a même aidée.
Oui, j'avais l'autorisation, mais sur une partie, en fait, sur un des murs de la chambre. Pas,
vous
pas
dessinez
partout.
Quoi?
Ce qui me passait par la tête. Selon mes humeurs, et ma mère peignait, faisait de la sculpture, c'était son truc, donc elle m'a toujours laissé m'exprimer sur les murs.
Quelle chance.
Ouais, c'était du bol, ouais.
Olivier, oui, c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il y a une troupe qui joue avec vous. Là, vous allez reprendre aussi des acteurs avec qui vous jouez. Alors, il y en avait un, moi je croyais que vous étiez très très pote, c'était Gérard Lanvin. Mais en fait, vous avez été fâché pendant un petit moment avec lui.
Oui, c'est vieux, c'est très vieux.
Oui, c'est une vieille histoire. Et vous êtes réconcilié dans Le Fils à Joe, il a joué dans Les Lyonnais. Mais c'est vrai que vous avez été fâché pendant un moment parce qu'il vous avait dû. Qu'il n'aimait pas un nouveau scénario.
Non, parce que Gérard, quand il a eu sa période creuse, parce qu'après avoir été une grosse vedette, il est resté 4 ans sans travailler. C'est Nicole Garcia qui l'a fait revenir avec Le Fils Préféré. Mais entre-temps, il avait signé une série télé, bien sûr, parce qu'il avait des enfants à nourrir. Et comme tout le monde, il avait des frais. Et il n'était pas très heureux. Et moi, j'étais un des auteurs. Je démarrais. Et c'est vrai qu'il a condamné cette série en bloc. Et on s'est tous un peu vexés parce que on connaît Gérard, quoi, avec ses grandes déclarations. Et ça nous avait blessés. Donc, on était un peu en froid. Et il m'avait rappelé après pour 36. Donc, ça ne s'était pas fait parce que je suis un peu rancunier. Et on s'est retrouvés dans Le Fils à Joe. Et là, c'est deux grandes gueules. Un peu
vous
ensemble.
Êtes tombé dans les bras l'un de l'autre. Quoi.
C'est un super ami aujourd'hui. Et je l'adore.
C'est un super acteur. Et c'est vrai qu'il a une grande gueule, mais c'est assez rafraîchissant aussi.
J'aime bien ce qu'il dit. C'est un type intègre. Oui, voilà,
absolument.
C'est un merveilleux compagnon de travail aussi. Enfin.
Et vous savez, les invités qui, au bout d'un moment, finissent par vous dire que l'eau ça mouille et que la guerre, c'est mal.
Oui. On pense au même ou pas?
On n'a pas eu Mireille Mathieu encore cette année, je ne sais pas pourquoi vous dites ça.
Mais elle ne pense pas des choses.
Elle peut balancer Mireille aussi.
C'est la guerre qui mouille, c'est tout.
C'est la guerre qui mouille. En tout cas, la guerre de 14, il ne s'est pas mouillé.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Olivier Marchal et avec Elsa Nguyen pour parler de Mon frère bien-aimé, qui est diffusé demain, 1er mars, sur France 2. Mais nous allons parler maintenant de quelqu'un qui a 60 ans. Et c'est qui a 60 ans?
C'est Gaston.
C'est Gaston. Alors, c'est Jérôme Bessières qui est au téléphone. Bonjour Jérôme.
Bonjour,
vous êtes commissaire de l'exposition sur Gaston Lagaffe au Centre Pompidou. Alors, il y a eu Tintin au Grand Palais. On peut parfois s'étonner de voir ce personnage, certes très sympathique, dans le temple de l'art contemporain. Pourquoi vous l'avez choisi, Gaston Lagaffe?
Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi Gaston Lagaffe? Alors, on a bien sûr prétexté de sa date d'anniversaire, puisqu'il a, il a 60 ans aujourd'hui, ce 28 février 2017. Mais aussi parce qu'on se rend compte, en le relisant rétrospectivement, que c'est un personnage qui continue à intéresser toutes les générations.
Oui.
Et qui fait vraiment partie du patrimoine culturel que partagent les Belges, les Français, depuis 60 ans. Un personnage qui incarne des valeurs presque politiques, même si son auteur n'a pas du tout essayé d'aller sur le terrain politique, qui résonne aujourd'hui.
Oui, il faut dire que quand c'est un anti-héros, parce que quand André Franquin a créé le personnage, qui est dans Spirou, eh bien, c'était pour faire un anti-héros, le type qui rate tout, et c'était très nouveau à l'époque.
Alors, pas tout à fait. Hein. Quand André Franquin invente le personnage de Gaston Lagaffe, en grande complicité avec celui qui, à l'époque, est le rédacteur en chef du journal Le Spirou, qui s'appelait Yvon Delporte, qui est une figure importante de l'histoire de la BD, ils n'inventent pas du tout un personnage de bande dessinée, au sens strict du terme. Mm-hmm. Ils inventent un bouche-trou. De février à décembre 57, Gaston Lagaffe, ce n'est pas une série BD, ce n'est pas des strips. C'est un petit gimmick, un petit bonhomme qui vient combler les trous d'une maquette. Il faut savoir à l'époque qu'il y a une édition en Belgique et une édition en France de Spirou, des encarts publicitaires qui peuvent différer à la fois de par leur contenu et par leur taille, et qu'il faut bien aider les maquettistes, il faut bien leur trouver des trucs pour remplir les blancs. Et ce truc, c'est Gaston, en fait. Donc Gaston, il va combler le blanc d'une colonne, il va remplir un bandeau titre et il va le faire en très vite, hein, en faisant bien sûr des gaffes. Mais ça n'est qu'à la fin de l'année 57, en décembre, que Franquin lance la série avec un associé, un co-auteur qui s'appelle JDM. Et là, ça va durer pendant plusieurs décennies.
Mais ce qui plaît avec Gaston Lagaffe, c'est qu'il est un peu comme nous. C'est-à-dire, d'abord, c'est plutôt un gentil. Et puis, il fait des gaffes tout le temps. Il est maladroit.
C'est quelqu'un qui n'aime pas le monde des adultes, au fond.
Voilà. Oui, c'est ça.
C'est de l'enfance, au fond.
Il est du côté des enfants et des gens, quoi. Parce que
Le ton est... Même si on voit bien, en fait, hein, que Gaston touche aux idées des années 60 et 70, politiques, au monde du travail.
Surtout le monde du travail, ouais. c'était une des premières.
Mais qui déteste, oui.
Il s'adresse quand même d'abord aux enfants. Mais l'importance de ce personnage dans l'histoire de la BD, et c'est ce que montre cette exposition à la BPI, à la bibliothèque du Centre Pompidou, c'est justement en fait qui va faire glisser le propos de la bande dessinée vers un lectorat beaucoup plus adulte. À l'époque, un héros de bande dessinée, c'est un cow-boy, c'est un détective, c'est un aviateur, c'est éventuellement un animal rigolo, mais c'est pas un personnage du monde réel. Donc ce bouche-trou, ce héros sans emploi, ce hippie en fait, hein, Gaston Lagaffe, en fait, il a la particularité de se poser dans une vie qui est certes imaginaire, hein, mais qui est le monde réel, qui est la rédaction fictive d'un journal, Spirou, et qui va petit à petit sortir en fait des murs du bureau pour entrer dans la rue, dans la société. C'est quelqu'un qui part camper, c'est quelqu'un qui invente des trucs, c'est quelqu'un qui va voir des matchs de foot, c'est quelqu'un qui fait du sport ou pas. C'est quelqu'un qui répare sa bagnole. C'est un homme du monde réel. Et en fait, le vrai apport, je pense, de Gaston Lagaffe, c'est d'avoir en fait fait glisser le terrain de la bande dessinée dans le lectorat enfant
vers un
lectorat plus adulte.
Et puis c'est surtout très drôle.
C'est ça qui fait que c'est un personnage tout en étant...
J'ai pas l'impression, là. Mais... Non, mais c'est vrai.
Analyse sociologique de Gaston Lagaffe.
Oui, mais c'est vrai. Soir, quoi. Non, mais en même temps, il fait rire.
Ouais.
C'est bien d'aller voir une exposition, en tout cas, qui est consacrée à Gaston Lagaffe. M'enfin, c'est la grande phrase de Gaston. M'enfin. Alors, merci Jérôme Bessière. Je rappelle que vous êtes le commissaire de cette exposition qui célèbre les 60 ans de Gaston Lagaffe à la bibliothèque du Centre Pompidou. Non, c'est pas le même. Merci beaucoup. Allez, on va retrouver dans un instant Elsa Lunghini, Olivier Marchal et la télé d'Éric Dussard.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Éric, On commence. Vous consacrez votre zapping au retour, au grand retour de la semaine.
Oui, car je sais qu'ils vous ont beaucoup manqué, Stéphane. Bonne nouvelle, les Marseillais sont de retour depuis hier soir sur W9. Ah. Alors, cette fois, ils ne sont pas à Ibiza. Hein, on ne veut plus les voir là-bas, évidemment, depuis qu'ils ont mis le feu en faisant des pizzas.
Bonsoir, le Jaguar et la Duchesse. Alors, c'est des pizzas au feu de forêt.
La pizza au feu de forêt, c'est bon, mais c'est pas très écolo. Faut brûler une pizza, une forêt à chaque fois que tu veux faire une pizza, c'est compliqué.
Faut brûler. Ouais. Mais ils sont où alors?
Ah bah attendez, parce qu'on va d'abord vous dire là où ils ne peuvent plus aller, parce qu'ils ont causé trop de problèmes lors des précédentes saisons. Par exemple, impossible également de les renvoyer en Thaïlande. Ils sont interdits de territoire après s'être pointés à moitié à poil dans un temple bouddhiste.
Ah, c'est interdit d'avoir un truc, le ventre nu et tout?
Nos tenues sont pas acceptables, enfin, surtout pour les filles, pour le respect de cette religion, de cette culture. Elles s'habillent avec des genres de petits peignoirs en kimono et voilà. Kimono.
Donc là, on arrive devant le grand Bouddha, le Big Bouddha, le Big Bouddha.
Aurélie, la meuf, tu peux lui dire quoi que ce soit, elle est en mode zen quoi. Je sais pas si c'est le pays du bouddhiste qui l'a bouddhitisé.
Bouddhitisé, je ne connaissais pas encore ce verbe.
Boudiné peut-être.
Ouais, c'est le petit kimono devant le Big Bouddha. Ça boudine.
Ça boudine.
Alors, la dernière option.
Oui, c'est le degré. Parce que Olivier Marchal est désespéré. C'est le degré zéro de l'intelligence humaine.
Oui, je sais, c'est pas grave. Ça m'arrive de...
C'est le gaz de schiste de la télévision. Ouais. C'est quand on creuse beaucoup, beaucoup. Et alors, la dernière option, celle qui consistait à les renvoyer en Afrique du Sud, elle aussi a vite été écartée. C'est-à-dire que la production, ils se sont dit que c'était pas la peine de revivre ce grand moment de malaise quand une candidate n'avait pas reconnu le visage de Nelson Mandela sur les portraits accrochés dans leur villa.
C'est vrai que dans la maison, il y a des tableaux d'un mec... Je sais pas qui c'est, donc je demande à Steph, vu que Steph est pleine de cultivage, donc du coup, ben voilà, je veux savoir ce que c'est, qui c'est. Tu sais qui c'est qu'on dirait, lui? On dirait l'acteur américain, tu vois qui je veux dire? Si, le vieux, les cheveux grisonnants, qui
Morgan
fait plein de
Freeman,
films.
Morgan Freeman,
pour moi, c'est l'acteur américain qu'on voit dans les films, mais je comprends pas ce qu'il a à faire, un acteur américain en pleine Afrique, quoi. Je sais que c'est intéressant et tout, je sais que c'est beau pour la cultivation de l'histoire, mais...
Non, mais vous imaginez quand même l'image qu'il donne de la France à l'étranger, hein? On ne va pas s'étonner après qu'on nous regarde de travers dans ces pays. Et alors pour cette nouvelle saison,
ce sont un peu les ambassadeurs de la France.
Ah oui.
C'est la France.
Et c'est la France.
C'est le visage de la France.
C'est les ambassadeurs de la cultivation française. Alors pour cette nouvelle saison, c'est donc en Argentine qu'ils vont ruiner l'image de la France. L'Argentine, d'ailleurs, cette candidate d'un jeu de TF1 va tout de suite nous rappeler quelle langue on y parle.
Quelle est la langue officielle en Argentine?
L'argentin.
Oui, c'est historique. En Argentine, on parle un patois d'Argenteuil. Donc, autant dire que nos Marseillais n'auront pas de mal à se faire comprendre là-bas. De toute façon, apparemment, dans cette nouvelle saison des Marseillais, c'est le langage du corps qui va primer.
Les Marseillais ne sont pas prêts d'oublier cette aventure, car ici, en Argentine, rien ne se passe comme prévu. Et ils vont vivre des expériences insolites.
Bienvenue chez les tout nus.
Mais les gars, vous savez quand même qu'on est tous tout nus là.
Oui, oui.
Vous avez bien entendu, ça va être les Marseillais chez les nudistes. Hein, bon, en même temps, vu les tenues habituelles des candidates, elles n'auront pas grand-chose à enlever pour se retrouver nues. Une ficelle et hop, ce sera réglé parce que dans cette émission, je vous rappelle qu'il n'y a que des filles très timides.
Je suis donc go-go danseuse, pole danseuse, c'est une passion. Et dès que je suis dans la rue, ça peut être un poteau stop, ça peut être un CD le passage, ça peut être enfin, n'importe quoi. Je peux pas m'empêcher en fait de grimper dessus et de faire des figures.
Déjà que je suis hyper stressée, je suis même pas sûre de pouvoir bouger mes fesses dans cette robe. En plus de ça, je vais devoir danser avec un inconnu que je ne connais même pas.
Ah oui, ça c'est les pires, les inconnus qu'on connaît pas. Hein. Autant les inconnus qu'on connaît, ça va encore à peu près.
Je crois que je vais me remettre à boire. Je crois, en fait. Ah ben ça y est, en sortant d'ici.
Vous voyez ce que ça fait d'être à jeun. C'est terrible. On finit comme les Marseillais. Non, mais les inconnus, inconnus, c'est vraiment très intimidant, c'est vrai.
C'est une émission qui pourrait coûter beaucoup moins cher.
Vous avez raison, Stéphane. Je me suis toujours demandé pourquoi ils payaient à ces Marseillais de W9 des voyages à l'autre bout du monde, alors que pour les dépayser, il suffirait de les envoyer dans une école primaire, par exemple. On voit bien qu'ils n'y sont jamais allés. Hein,
que signifie PIB? Pays-Bas. Comment s'appelle la chancelière allemande?
Moi, la chandelière, je sais pas ce que c'est en fait.
Qui est l'auteur de l'autobiographie de Guy de Maupassant?
Je sais même pas qui c'est. C'est quoi cette question?
Marilyn Monroe. Est-ce que tu crois qu'elle a connu Louis XIV ou pas?
Bien sûr, elle est sortie avec lui. Kennedy s'étant tapé Cléopâtre comme chaque année. Stéphane, je vois que vous n'allez pas bien, votre œil ne sert à rien.
Mais vous savez, moi ça me fait mal. Mais c'est vrai, sérieusement.
Bouchez-vous les oreilles, Stéphane, parce que ce n'est pas fini.
La Première Guerre mondiale, elle a commencé quand, elle a fini quand?
Je le sais, on l'a bien sorti celle-là.
Ouais.
24.
En quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique?
Ah ben 1945.
Voilà, il a fait le débarquement, mais dans l'autre sens. D'ailleurs, les navires se sont croisés. Ils se sont dit salut. Mal, hein, tu vas par où, toi?
Le rembarquement.
Il a rembarqué.
Il y a presque tous les chiffres. Hein.
Ah, c'est pas dans le bon ordre, c'est tout. Ouais, c'est la bonne combinaison, mais bon, voilà.
Et on termine avec une explication.
Ouais, en fait, s'ils disent autant de bêtises, c'est Marseille et W9, c'est juste parce qu'ils parlent sans réfléchir. Comme dit la fameuse expression, ils devraient tourner 7 fois la langue dans leur bouche avant de parler.
Moi je suis comme ça, moi je réfléchis. En fait le problème c'est que je tourne pas mon cerveau 7 fois dans ma tête avant de parler. C'est vrai que j'ai un sale caractère et parfois je m'emporte très vite et des fois je devrais tourner ma langue dans ma poche avant de parler quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà, après j'étais énervée, ça m'a saoulée d'entendre ça. Avec qui mon ami, voilà, les barres sur les i, les points sur les t et du coup ben...
Parce qu'elle est tellement agressive. Que le moindre truc que je lui parle, elle monte sur ses 4 chevaux.
Dès qu'elle est énervée, elle monte sur le toit d'une Renault 4 chevaux, alors faut la trouver. Parce que c'est rare maintenant ce modèle. Non mais il pourrait faire auteur.
C'est magnifique.
Ah, il y a plein de choses à apprendre. Il faut faire un spectacle sur scène.
Il faut faire ça sur scène.
En tout cas, merci Eric de nous avoir fait partager ce retour des Marseillais. On va se retrouver dans un instant avec Elsa Lunghini et avec Olivier Marchal pour la suite d'À la bonne heure. Et puis, eh bien, Stéphane Rose va nous dire ce que les auditeurs lui ont écrit dans la semaine. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Bon, ok, je sais, je commets des maladresses verbales, moi aussi.
Non, mais c'est clair.
J'ai dit qu'on vous a écrit, Stéphane Rose, absolument. Et vous avez le courrier. Je voulais juste rappeler que demain soir, donc, est diffusé sur France 2 à 20h55, Mon frère bien-aimé, formidable téléfilm de Denis Malval, avec vous, Olivier Marchal, avec Elsa Lunghini. Eh bien, sans plus tarder, donc Stéphane Rose pour le service qualité des auditeurs.
À la bonne heure, service qualité.
Je suis vache, mais je suis réglo.
Stéphane Rose.
Mais plus vous m'haïrez, et mieux vous apprendrez.
Oui, bonjour à tous. Beaucoup de réactions d'auditeurs cette semaine encore. On commence avec un tweet de Roudoudou75. Bonjour à toute l'équipe et bravo pour l'émission. C'est un plaisir de vous écouter. J'ai une question concernant vos invités du jour. Est-ce que... Alors merci Roudoudou, mais le propre du tweet est qu'il est limité à 140 caractères. Du coup, on ne sait pas quelle question vous vouliez poser du con. Une question de Clotilde à Villeneuve-les-Charneaux dans le Jura. La semaine dernière, vous avez parlé de fake news, mais je n'ai pas compris ce que c'était. Pouvez-vous éclairer ma lanterne? Oui, alors, les fake news, ce sont de fausses informations, des mensonges qu'on lance sur une personnalité dans le but d'écorner son image. C'est très à la mode en ce moment et très utilisé en politique. Mais je vous donne un exemple concret pour vous expliquer comment ça fonctionne. Si je dis en direct sur RTL, Stéphane Bern a 3 couilles.
Mais non, mais...
C'est une fake news. Oui, oui. Et tout le monde saura que c'est faux, à l'exception de 2 ou 3 auditeurs crédules qui se diront « il n'y a pas de fumée sans feu » et qui raconteront à tous leurs amis que Stéphane Bern a 3 couilles et la nouvelle se propagera ainsi dans toute la France et poursuivra Stéphane Bern jusqu'au restant de ses jours au point que la 3e couille de Stéphane Bern deviendra aussi célèbre que le zizi d'Amandalire. C'est ça une fake news.
On me l'a enlevé.
Bon, pour Amandalire, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah. Qui reprend.
Mais quel monstre.
Un message du ministère de l'Intérieur. Ah. Des migrants ont été signalés dans votre studio. Ah. Nous vous rappelons que l'hébergement illégal d'immigrés clandestins est sanctionné par la loi. Oui, alors, j'admets qu'on peut confondre, mais ce ne sont pas des immigrés clandestins, c'est notre public bien-aimé. Un email de Jean-Claude à Paris. Bonjour, je suis président de l'AHTF, l'Association des handicapés testiculaires de France. J'ai appris que Monsieur Bern avait 3 testicules et me demande s'il accepterait de parrainer notre association. Mais je lui transmets l'invitation, Jean-Claude. Une question de Maëva à Paris. Bonjour mon chéri, c'était super hier, ton énorme et magnifique sexe triomphalement dardé vers les cieux de mon désir, associé à ta grâce féline et ta science de l'amour, ont rendu cette nuit inoubliable. C'est la première fois de ma vie que j'enchaîne 17 orgasmes à la suite. Pardon, excusez-moi, c'était un courrier personnel. On enchaîne. On termine avec un email de Vladimir à Moscou. Bonjour, je Vladimir Poutine. Désolé de moi parler pas bien français, mais moi pas envie d'apprendre votre langue de petit pays minable. Je vouloir juste demander à Stéphane Bern si lui pas vouloir rejoindre les chœurs de l'armée rouge. Moi l'avoir écouté chanter du Céline Dion dans Test à l'aveugle de Patrice Carmouze, moi très impressionné. Stéphane Bern avoir beaucoup de puissance vocale. Alors en effet, j'ai retrouvé l'extrait, c'était le 14 février dernier, sur la célèbre chanson du Titanic. Stéphane devine l'interprète, Céline Dion, et se met ensuite à chanter le refrain avec elle. Tout le studio en a eu des frissons, on réécoute.
C'est beau.
Ah, c'est Céline Dion.
Ouais, ouais. Oui. C'est cadeau. Non,
voilà. C'était un spasme en fait.
Le silence après du Stéphane Bern étant encore du Stéphane Bern, je n'ai rien à ajouter. À la semaine prochaine. Oh là là.
Merci Stéphane Rose. Tout est faux.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et je vous l'ai promis, cette interview, Olivier Marchal et Elsa Lunghini, où vous préférez jouer ou écrire?
Ah, j'ai besoin des deux. Mmh. Voilà.
Pareillement. Mmh.
La scène ou le cinéma?
Je préfère la scène.
La scène.
Oui. Et vous?
Les deux.
La famille ou les potes?
Les deux.
Non, c'est où hein.
Oui, non, mais je sais, mais oui, alors. Oui. Non, mais
les potes en famille. Dur,
ouais. Non, je, bah ouais,
vous êtes potes avec les gens de votre famille?
Ouais.
Vie privée ou vie professionnelle?
Vie privée.
Moi, c'est vie professionnelle.
Les sorbets ou les glaces?
Ça, c'est pour vous.
Oui.
Les glaces.
C'est l'enfance, ça.
Oui. Les glaces.
Mer Méditerranée ou océan Atlantique?
Océan Atlantique.
C'est pas l'océan, vous aussi?
Oui. Si, si, oui.
Océan. Océan aussi. Oui. Flic ou voyou?
Les deux.
Ça peut être la même chose, d'ailleurs. Hein.
Oui, c'est. Oui, c'est mais vous savez, il y a un dicton qui dit un voyou, c'est un flic. Non, un flic, c'est un voyou qui a mal tourné. Oui. C'est ouais. Ça, oui.
Alors, Olivier, Auteuil ou Depardieu?
Ah, là, c'est délicat. C'est délicat. J'aime les deux. Hein. Oui, j'ai un profond respect pour les deux. Mmh. Une grande admiration pour les deux.
Elsa, Abdelhafid Metalsi ou Olivier Marchal?
Olivier Marchal.
Olivier Marchal.
Ah, c'est gentil.
Alors maintenant, c'est la question Tesla. Ah. Ah. Non, mais c'est une vraie question, je le dis pour les auditeurs, c'est vraiment la question que...
on espère. Enfin, on espère parce que on n'est pas sûr.
Maintenant, je suis plus sûr parce que les gens me disent c'est une question horrible, elle est idiote. Pourquoi vous posez cette question? Mais c'est pas idiot et ça fait rire en plus. Pour éviter un accident grave comme la mort de 10 enfants,
vous voyez que ça fait rire.
Vous êtes obligé d'écraser soit une femme enceinte, soit une personne âgée. Vous sacrifiez qui?
Voilà. Ça fait rire Stéphane Bern.
La personne âgée.
Voilà.
Oui, ben oui.
Oui.
Oui. Bah oui,
c'est des horribles.
C'est horrible. Il y a 200 personnes âgées qui sont mortes depuis.
Virtuellement.
Oui, virtuellement.
On n'a tué personne ici, hein, ça se saurait. Est-ce que ça changerait quelque chose s'il y avait d'un côté une personne belle et de l'autre côté une personne laide?
Ça changerait quelque chose?
Oui, pour vous. Vous préférez sacrifier.
Parce
que.
Sacrifier. Oui.
Oui. Une vieille moche.
Elle est terrible. Elle est terrible. Mais non, c'est mais drôle.
C'est vrai. Mais c'est vrai. Alors, il y a des gens ici qui nous ont répondu qui plutôt préféraient sacrifier les beaux. Les beaux, oui. Parce que ça énerve la beauté.
Oui.
Et moi, personnellement, n'ayant jamais été beau, je préfère sacrifier les moches. Quitte à être sacrifié moi-même.
C'est bon, vous en sortez bien, c'est Stéphane. Non, c'est une façon
en fait,
de.
Ça rend vous psychanalytique pour lui.
Oui, c'est ça. Ouais.
Il parle beaucoup de lui.
Plus en plus, c'est vrai.
Je te laisse répondre pour moi.
Oui.
Non, mais je ne prends pas le risque.
Hein.
Non,
pas le risque.
Vous préférez écraser un type normal ou un qui a trois couilles?
Voilà, merci.
Merci, hein, Régis. Ah, merci.
Heureusement qu'il est là.
J'ai toutes les raisons de me
retrouver. Il nous sent de la merde.
Mort très vite. Ah bah, bon, j'ai pas encore utilisé de Tesla. Enfin, pardon pour Tesla, mais j'ai pas encore utilisé leur voiture. Question bras. Une question très importante aussi. On vous promet que si on vous coupe un bras, il n'y aura plus de misère dans le monde. Vous donnez votre bras
non,
ou pas?
Non, je garde mon bras.
Oui.
Ah, moi, je garde mon bras.
Vous gardez votre bras. Voilà. Et ben, on garde la misère dans le monde. Alors. Eh bien voilà.
Ah, les questions.
Oui, je sais, elles sont débiles. Mais je ne suis pas entièrement responsable, je tiens à le souligner. Mais j'assume. Voilà. On va se retrouver dans un court instant pour... Alors c'est l'apothéose, c'est le C'est comment le moment attendu, le point d'orgue de l'émission, le test musical de Patrice Carmouze.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Alors Patrice, nous jouons, je le rappelle, pour faire gagner à un auditeur ou une auditrice, eh bien, un séjour au château de la Traîne. C'est un relais château, c'est un week-end de rêve, ça se passe en Dordogne. Absolument magique. Alors pour ça, on va jouer avec les chansons dans le thème,
oui,
de, la
dans le thème de la police, oui, ou les policiers. Voilà. Donc, et on va commencer par vous deux, Elsa et Olivier. Vous devinez qui chante.
Moi j'aime galonner ces compagnies républicaines de sécurité.
Annie Cordy.
Annie Cordy, oui, c'est lourd.
Stéphane, tu vas avoir de l'aérophagie. Très bien.
Joël, vous êtes prête? C'est pour vous,
à
ça.
Vous, Joël. C'est la nuit. Sur la banlieue.
À ton avis,
oui.
Ah, mais non, non.
Si, mais il faut l'aider.
Oui, elle n'entend pas. Elle est tombée, Elsa.
Renaud.
Non, mais alors, Renaud. Nous sommes dans une équipe.
On est très solidaires.
Vous pouvez l'aider, allez.
Renaud.
Oui, bravo. Bravo, bravo, Joël.
Mon appareil a marché.
La balade de Willy Brouillard.
Oui, il en a fait des chansons sur, oui, la police, Renaud.
Il en a fait des chansons, oui, sur, oui, la police.
J'ai embrassé un policier sur la bouche.
Mais attendez. Ça, c'est à Stéphane maintenant.
J'ai embrassé
un flic, Renaud. Oui, alors sur la bouche, comme dirait
Gérard Larcher,
le président du Sénat. Ah,
oui. Il nourrit beaucoup de fantasmes, apparemment.
C'était, dans sa période filloniste.
Absolument.
2-1.
2-1. Stéphane Rose.
Bien.
Oui. Elle m'a verbalisé. Avec classe.
Quelle qualité d'enregistrement.
C'est votre cousin?
Ça s'appelle Amoureux d'une flic, non?
Elle m'a verbalisé.
C'est un bon chanteur.
Un mauvais enregistrement.
Ouais, l'enregistrement n'est pas terrible, mais...
Ça, c'est années 60.
Non, c'est récent.
C'est une vidéo YouTube, ça?
Non.
C'est un cousin?
C'est un...
Non.
C'est du Vincent Delerme?
Pas loin.
On entend.
Ah, l'autre, là.
Thomas Fersen?
Non.
Non.
Violet, non?
Non.
Poisson, Tom Poisson.
Non. Je vous le dis.
Non, Fersen, non?
Benabar.
Benabar.
Pas loin, non. Je vous le dis. Renan Luce.
Renan Luce.
Ah ouais, c'était, ouais, plus compliqué, ça.
Et arrêtez de regarder Stéphane.
Attention, bah c'est un Stéphane,
c'est
un,
ouais.
C'est NTM?
Non. Mauvaise réponse, c'est... le premier.
Attendez,
je fais semblant de pas savoir, parce qu'il a regardé la réponse, maintenant il va la donner. Allez-y. Non,
ah, ça s'appelle Sacrifice de poulet.
Ah bah oui, c'est Mystère, oui, amer, alors. Oui, ça, c'est...
Ah bah oui, alors.
La double... Voilà.
C'est la double couche. Il fait une double couche, maintenant.
Il s'améliore dans la triche,
alors. Il est plutôt rapueste, normalement.
Mais non, j'ai pas triché.
On va le mettre dans la rue, il va faire du bon tour, vous allez voir.
Madame le juge, je vous jure, j'ai pas triché. Ça, on en a combien?
On en est à 3-1, hein. Stéphane 3, mène.
Et c'est donc. C'est donc pour. Éric Régis, c'est pour vous ça.
Bah là, c'est le DM.
Ouais. Vous savez, je veux tellement faire gagner l'auditrice
Jennifer
qui a misé sur nous que.
Et combien? Et celle qui a misé sur nous.
3-2.
Elle 3-2. Gagné aussi.
Ouais. Ouais, c'est donc... Denis aujourd'hui.
Oui, c'est Denis.
Olivier Elsa, c'est pour vous ça.
Pas celui, oui.
C'est gars, elle a dit Gainsbourg. Ouais, elle a dit Gainsbourg, bah oui, elle l'a cru.
Elle a eu l'intention de dire. 4-2, Stéphane.
Alors, là, c'est une musique de film. Soit vous me dites l'auteur, soit le film duquel c'est tiré. Vous verrez.
Eh ben, ni l'un ni l'autre.
Bah, c'est les.
Ou l'auteur du film.
Le...
Non.
Oui.
Non.
C'est dit, oui.
C'est la marche des CRS, ça s'appelle.
Charlot.
C'est Jean-Yann.
Oui, absolument. Bravo. C'est moyen de voleur des sous.
Voilà, c'est,
ah,
ça.
C'est dans... C'est dans... Ah, ouais.
Je donne le point à Olivier.
Et c'était donc Michel Magne.
Michel Magne, ouais, oui. Bah,
pourquoi? Il n'était pas dans notre équipe, Olivier?
Oui, parce que c'est beau de l'avoir éprouvé. Ça,
oui,
ça fait 5-2.
Voilà.
C'est la FIFA.
Et c'est à Stéphane maintenant.
Ah, là, là.
Vous avez le droit de perdre de temps en temps.
Monsieur l'agent, monsieur l'agent, monsieur l'agent, monsieur l'agent, est-ce que je vais bientôt sortir de ce que...
Comment il s'appelle?
Le bien longtemps, longtemps, longtemps. Monsieur l'agent, Cosimo.
C'est Gianni.
Ah, Gianni, non.
Bobby Lapointe.
Ouais. Oui, c'est Bobby Lapointe.
Merci Dominique.
5-3.
5-3, on a le temps d'une autre, allez.
Oui. Il était pas le fameux Livoire et perdait tout son sang.
C'est facile, ça. Ouais, Juliette Gréco.
Bon, bah, je le donne à votre équipe, Stéphane.
non, c'est eux qui m'ont dit
c'est pas bien.
Non, non, 5-4.
C'est
juste pour faire aller Régis.
On va finir par celle-là.
Ça changera rien.
Et là, vous me dites soit qui chante, soit l'auteur de la chanson.
Au marché de Brive-la-Gaillarde,
bah, Renaud,
à propos de
Bottes
et d'Oignons, quelques douzaines de Gaillard.
Oui, c'était à eux de répondre.
Ça fait égalité, là.
Ça va, ils ont tous points, déjà.
C'est nul, Patrice.
C'était à eux de répondre.
C'est comme ça tous les midis, hein.
D'accord.
Bon, alors, c'est votre équipe. Une dernière.
À la bouche.
Écoutez.
Mais là, il n'y a que les enfants, là.
Ouais, mais
c'est un animateur.
Faut attendre un peu, mais ça va venir.
Il y en a qui frappent.
Souchon. Oui. Qui a dit?
C'est Régis.
Ouais, ok, c'est Denis alors qui part
Sur un fil. Hein.
Et ben, c'est
sur le fil.
C'est sur le fil et je n'aime pas vos méthodes.
C'est Denis
voilà, qui était dans l'équipe du reste du monde. Écoutez, voilà, merci en tout cas à nos invités.
Merci à vous.
Elsa Lunghini, merci Olivier Marchal. Je rappelle mon frère bien-aimé qui est demain. Eh bien, demain, 1er mars, à 20h55 sur France 2, téléfilm de Denis Malval, avec notamment Michael Youn, qui joue votre jeune frère, qui fait beaucoup de bêtises. Il serait temps qu'il se calme. Voilà.
Il fait bien les affaires.
Oui, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Demain, nous serons avec le violoniste Renaud Capuçon. Merci à tous de nous avoir suivis. RTL, il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.